Commençons tout de suite par Jean-Claude et Jörg Peters qui vont présenter des éléments qui sont des éléments qui sont de nature plus académique que les autres sessions dans lesquelles on aura un mariage entre l'académique et le praticien. Donc oui, Jean-Claude, peut-être.
Faut que je parle plus près du micro, peut-être. Ouais, excusez-moi. Donc, nous avions beaucoup d'interrogations sur la diversité des approches en matière de projets d'électrification décentralisée. Et nous avons essayé de comprendre à partir des données de la recherche quelles pouvaient être les bonnes pratiques. Alors les bonnes pratiques, ça, c'est sur un grand nombre de domaines différents que je classerais, disons, dans des domaines plutôt technico-économiques. Quelle source d'énergie utiliser, quel système de quelle taille de système électrique, etc. Et puis des questions plutôt de l'ordre de la gouvernance des projets. Donc c'est un peu ces deux domaines que je vais aborder. Pour cela, nous avons construit une base de données qui est maintenant disponible en ligne sur le site de la FERDI, que nous avons un peu pompeusement appelée COSMA, pour Collaborative Smart Mapping of Mini-Grid Action. Donc l'idée était de partir des travaux d'évaluation qui ont été publiés. C'est pour ça que je faisais référence à la recherche, parce que nous avons uniquement utilisé des papiers qui ont subi ou bénéficié d'un processus d'évaluation de la qualité scientifique des papiers. Et nous avons utilisé pour cela à peu près 125 papiers de recherche qui nous ont permis d'avoir des informations sur un peu plus de 400 projets différents qui sont partout dans les pays en développement. Je vous montrerai une carte tout à l'heure. Et sur ces quelques 400 et quelques projets, nous avons recueilli des informations de deux natures. D'une part, les caractéristiques du projet, donc que ce soit technico-économique ou sa gouvernance, et d'autre part, les impacts ou les effets de ces projets. Alors, on va parler plutôt d'effets que d'impact pour utiliser le langage des économètres. Les effets sur des projets, ça peut être de nature très diverse. Évidemment, le premier effet que l'on peut imaginer, c'est il y a un meilleur accès à l'énergie. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que beaucoup de travaux se sont penchés non pas sur les effets en matière d'accès à l'énergie, mais sur les effets sur les autres objectifs du développement durable. La santé, l'éducation, la pauvreté, l'environnement, etc. Et c'est là où il me semble que le sujet est important, parce que à travers l'accès à l'électricité, ce que l'on vise, c'est pas tant l'accès à l'électricité que tout ce que cela apporte en matière de développement et notamment en matière d'objectifs du développement durable. Donc c'est une littérature qui a connu une assez forte croissance. Vous voyez là sur la courbe que j'ai dessinée qu'il y a une croissance exponentielle des travaux sur le sujet. Donc ce qui nous fait dire que ce sujet va continuer à prendre de l'importance dans les années à venir. Vous avez ici la carte qui montre la distribution géographique des projets. Vous voyez qu'on a on a des projets un peu partout dans le monde. Je dois signaler que l'approche que nous avons retenue est une approche initialement, on va dire, agnostique. Nous n'avons pas cherché à privilégier un type de projet par rapport à un autre. Nous n'avons pas cherché à privilégier une région du monde par rapport à une autre. Nous avons essayé plutôt d'avoir un échantillon représentatif des projets qui ont été réalisés. Les 400 et quelques projets que nous recensons dans la base ne représentent pas évidemment l'exhaustivité de l'existant, mais nous avons la conviction, compte tenu du caractère assez systématique que nous avons de notre approche, nous avons la conviction que notre échantillon de projet est représentatif de la situation actuelle. Alors, la situation actuelle est une situation dans laquelle nous avons trois types d'évaluations. Nous avons des évaluations que nous appelons scientifiques. Alors, les évaluations scientifiques, ça veut dire que des chercheurs ou des évaluateurs ont cherché sur le terrain des informations statistiques sur l'effet du projet sur la population. Donc on a à ce moment-là une distribution statistique des effets, et cette distribution statistique nous permet de tester de manière scientifique si effectivement la conclusion que le projet a eu un impact sur l'éducation des enfants dans la zone concernée est prouvée scientifiquement. Après, les économètres ont, et York pourra en parler mieux que moi, les économètres ont beaucoup de débats sur quelle est la meilleure approche d'évaluation, etc. Nous restons à l'étape zéro du processus, qui est de dire, pour avoir une évaluation scientifique, il faut avoir plus qu'une observation. Il faut avoir un assez grand nombre d'observations pour pouvoir faire des tests statistiques. Et vous voyez que, en fait, le nombre d'effets qui sont mesurés avec des données scientifiques est relativement limité. C'est en gros entre un quart et un tiers des évaluations que nous avons. Les deux autres types d'évaluations que nous avons, ce sont d'une part des évaluations quantitatives, mais uniquement en termes de moyenne. Donc, en moyenne, un expert ou un statisticien a trouvé que 53% des enfants avaient eu leur éducation améliorée par l'accès à l'électricité. Mais cette moyenne cache beaucoup de diversité et ne permet pas de tester les raisons précises pour lesquelles tel et tel enfant ont eu une amélioration de leur éducation. Et puis, le troisième type d'effet que nous avons dans la littérature, c'est ce que nous appelons des dires d'experts. Donc, les experts, par définition, sont des gens très compétents, et on peut leur faire confiance sur le fait que quand ils disent que l'éducation a été améliorée, c'est vrai, mais on a évidemment encore moins de moyens, on se donne encore moins les moyens de prouver scientifiquement la réalité de la conclusion à laquelle ils arrivent. Donc voilà, nous avons trois types de données. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que pour l'essentiel, uniquement les données de bonne qualité, c'est-à-dire les données scientifiques, nous permettent de tirer des conclusions de notre base de données. Donc ça restreint malheureusement pas mal l'échantillon, mais malgré tout, ça nous permet quand même de tirer des conclusions. Alors l'autre contrainte que nous avons, c'est que les différents projets ont été évalués de manière plus ou moins active par les chercheurs. Et ce dont nous apercevons, c'est que et les différents effets aussi ont été évalués d'une manière plus ou moins active. Ce dont nous apercevons, c'est que assez paradoxalement, enfin peut-être paradoxalement, je ne sais pas, les chercheurs ont regardé, quand ils ont fait des évaluations scientifiques, ont regardé beaucoup plus les effets sur l'éducation, la santé, que sur l'accès à l'énergie et que sur l'environnement. Nous avons beaucoup plus de données sur certains ODD que sur d'autres, et nous en avons plus sur l'éducation et la santé que, par exemple, sur l'ODD numéro 7. Contrairement à ce qui se passe dans la totalité des projets. La totalité des projets, c'est-à-dire quand vous prenez tout type d'évaluation, la plus grande partie des évaluations concerne l'accès à l'énergie, et vous avez aussi, par exemple, pas mal d'évaluations, mais non scientifiques, sur les effets sur l'environnement, par exemple. L'autre distorsion de notre échantillon concerne la nature des projets. Pour l'essentiel, les évaluations scientifiques ont concerné un type et un seul de projet que j'appellerais de manière un peu caricaturale, mais à peine, les Solar Home Systems. C'est-à-dire des projets de petite taille, que dans notre analyse nous appelons des nanoprojets. Petite taille, nanoprojet, ça veut dire des projets dans lesquels le système de production électrique ne dépasse pas 1 kilowatt. Et des projets reposant sur des panneaux photovoltaïques. Alors ça, c'est effectivement des projets qui ont connu, qui sont les plus populaires parmi les opérateurs, mais qui sont et de loin et encore plus de loin les plus populaires parmi les chercheurs. Donc les chercheurs, en fait, pour l'essentiel, ont regardé les SHS ou les lanternes solaires ou ce genre de choses. Et très peu les mini-grids, les mini-réseaux. Et très peu les mini-réseaux s'appuyant non seulement sur énergie solaire, mais sur des solutions hybrides ou éventuellement sur quand cela est possible, sur de l'hydraulique. Alors que quand on regarde la totalité des projets, donc évaluation scientifique ou non scientifique, on s'aperçoit qu'il y a quand même un grand nombre de projets qui ont été réalisés de type mini-grid et reposant sur des sources d'énergie diversifiées, pas uniquement le solaire. Donc là, on a dans notre base de données, ce dont on s'aperçoit, c'est que la réalité est une réalité très diverse, avec et pas seulement des lanternes solaires ou des solar home systems, avec beaucoup de projets qui ont été réalisés de plus grande taille et plus diversifiés, mais sur lesquels les évaluateurs se sont penchés de moins souvent, et en tout cas les évaluateurs cherchant à évaluer de manière scientifique les effets, se sont penchés de manière assez parcimonieuse. Donc ça, c'est un petit peu une difficulté que nous avons, qui est inhérente de nouveau à l'existant. C'est pas un choix de notre part de regarder uniquement cela, c'est l'existant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'en matière de données de gouvernance, il n'y a pas de biais particulier dans notre échantillon entre les données de nature scientifique et les autres. Et je reviendrai sur les résultats sur la gouvernance plus tard. Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec ces données? Ben, nous avons fait deux choses. D'abord, nous avons essayé de faire des statistiques descriptives, mais surtout, nous avons essayé d'en tirer des faits stylisés avec les méthodes utilisées habituellement dans différents domaines scientifiques. Ces méthodes ce qu'on appelle des méta-régressions ou des méta-analyses. Alors, une méta-analyse, c'est quoi? C'est on prend les évaluations qui ont été faites par un grand nombre d'évaluateurs, que l'on codifie pour les rendre comparables, et on cherche à voir si les différentes évaluations qui ont été faites nous permettent d'avoir un consensus sur la réussite d'un traitement, par exemple, quand on parle de méta-évaluation en médecine, ou sur les raisons qui font que ce type de projet a du succès ou pas. Alors ici, nous avons une approche un tout petit peu plus complexe que la plupart des méta-analyses, parce que dans les résultats des analyses, nous avons 5 types de conclusions possibles. Première conclusion possible, qui est celle qui nous intéresse, est-ce qu'il y a eu un effet favorable, significatif, sur le plan statistique? Donc c'est ça, évidemment, qui nous intéresse le plus. Ensuite, nous avons des observations dans lesquelles nous avons un effet favorable, mais non significatif sur le plan statistique. C'est-à-dire qu'on peut conclure qu'il y a eu un effet favorable, mais on a une chance non négligeable de se tromper en donnant cette conclusion. Ensuite, on a des évaluations qui nous montrent qu'il y a un effet défavorable significatif. Alors, ça peut être un effet défavorable parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu une modification du comportement des agents qui, finalement, les a envoyés dans une situation d'échec. ou des effets défavorables non significatifs. Et puis la cinquième catégorie, qui est résiduelle, qui sont simplement des conclusions incertaines. Donc nous avons cinq conclusions. Nous avons codifié les conclusions des différentes analyses que nous avons utilisées dans ces cinq catégories. Et nous avons essayé de déterminer par nos méthodes économétriques, sur lesquelles je ne m'attarderai pas, les raisons pour lesquelles on avait un effet favorable significatif, etc. Je me concentre sur l'effet favorable significatif. Et les raisons sont de multiples natures. D'abord, il y a la nature des effets. Il y a des effets qui ont, pour lesquels on a plus d'observations favorables que d'autres. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les effets sur l'accès à l'énergie, de données numéro 7, sont plus nombreux en termes d'effets favorables significatifs que sur d'autres ODD, ce qui n'est pas très surprenant. Et puis, surtout, nous avons regardé l'impact de nouveau de la nature du système de production électrique et l'impact de la gouvernance du projet. Alors, pour commencer sur la nature du système de production électrique, là, je vais vous montrer simplement des graphiques qui synthétisent nos résultats. Donc, dans ce graphique, vous avez quatre types de systèmes de production utilisant de l'hydro, utilisant des générateurs diesel, utilisant de l'hybride diesel solaire et utilisant du solaire. Je n'ai pas les autres catégories parce que nous n'avons pas de données scientifiques sur les autres catégories de projets. Ce dont on s'aperçoit, ce qui est assez rassurant, c'est que les projets les plus populaires, les projets utilisant les panneaux photovoltaïques, sont ceux qui ont le plus souvent des effets favorables significatifs. Les systèmes hybrides solaire-diesel ont aussi des effets favorables significatifs assez nombreux, mais ici le paramètre est estimé de manière très imprécise compte tenu du nombre d'observations disponibles dans cette catégorie. Cette bonne nouvelle est immédiatement modulée par une mauvaise nouvelle, qui est que, en fait, les systèmes solaires, pour l'essentiel, en tout cas dans notre échantillon de données, sont des nanosystèmes, donc des systèmes de petite taille, moins de 1 kilowatt. Et du coup, les systèmes les plus populaires se retrouvent être des systèmes dont les impacts favorables significatifs sont finalement assez rares. Alors ici, j'ai fait un mélange entre j'ai fait un calcul un peu de coin de table dans lequel je pondère chaque système par les effets selon qu'il est de petite taille, nano ou pas. Donc la colonne de droite, donc pour le solaire, vous apercevez que la colonne de droite est beaucoup plus basse que la colonne hybride ou la colonne hydro, tout simplement parce que les systèmes utilisant les panneaux photovoltaïques sont en très grande majorité des systèmes nano. Et comme les systèmes nano ont beaucoup moins d'impact favorable significatif que les autres, on se retrouve finalement avec la conclusion qu'en moyenne, les systèmes utilisant l'énergie solaire ont relativement peu d'impact favorable significatif. Contrairement aux systèmes hybrides et aussi contrairement aux systèmes utilisant l'hydraulique. Évidemment, les systèmes utilisant l'hydraulique ne sont pas disponibles partout. Donc ça nous semble être une conclusion intéressante à regarder. Pourquoi ? Parce que cette conclusion conduit à penser qu'il faudrait se pencher de manière plus sérieuse sur les mini-réseaux plutôt que de regarder uniquement les systèmes individuels de type SHS. Ensuite, alors ça c'est quoi ça ? Excusez-moi, je suis malvoyant. Ensuite, nous avons essayé d'aller un petit peu plus loin dans cette conclusion et nous avons mobilisé l'ensemble de la base de données pour regarder s'il y avait un impact de la puissance du système, donc nano ou pas, sur la nature des effets obtenus. Et en particulier, est-ce que les systèmes de production électrique qui sont mis en œuvre ont un effet de transformation économique ou uniquement un effet d'apport de sources d'électricité type éclairage ou recharge des batteries de téléphone. Évidemment, quand vous avez un système de faible puissance, ce système, en général, ne sera pas mobilisable pour faire tourner des machines-outils, par exemple, ou de l'outillage. Il pourra être utilisé à la limite pour une pompe hydraulique, il pourra être utilisé pour alimenter un réfrigérateur, mais pas de l'outillage électrique. Et donc, nous avons l'intuition que la transformation économique sera beaucoup moins importante dans les systèmes nano que dans les systèmes de plus grande taille, de plus grande puissance. Et c'est ce que nous observons. Alors, nous observons ici de manière descriptive, hein, parce que nous avons été obligés de mobiliser l'ensemble de la base de données pour étudier cette question, compte tenu des biais que j'ai signalés sur l'échantillon de données scientifiques. Mais quand on regarde l'ensemble de la base de données, de manière descriptive, on arrive à la conclusion que 100% des systèmes de taille supérieure à 1 kW ont un bon niveau de succès en matière de transformation économique contre seulement 60% pour les systèmes nano. Donc ça me semble être une conclusion qui va dans le sens aussi de dire il faut regarder avec beaucoup plus d'attention les mini-réseaux plutôt que les systèmes nano. Ensuite, nous avons essayé de regarder des questions de gouvernance. Alors, la première question que nous nous sommes posées, c'est une question qui est classique, hein, dans ce domaine, c'est est-ce que les approches de type bottom-up ou de type top-down sont préférables. Donc, les approches de type top-down, c'est, ben, en gros, c'est une agence d'électrification rurale identifie des localités qui lui paraissent prometteuses pour déployer des systèmes de production électrique et déploie ces systèmes dans ces localités. Bon, je caricature évidemment. L'approche bottom-up, c'est une agence d'électricité rurale fait un appel d'offres et voit quelles sont les localités qui sont volontaires pour développer des projets. Donc, ce sont vraiment deux approches différentes et on observe ces deux approches dans les différents pays que nous avons observés. Il nous semble que l'approche bottom-up a le très grand avantage d'être ancrée dans les besoins des collectivités locales concernées. Et c'est très important, notamment quand on pense que, c'est ce que nous pensons, que le succès de ces projets va au-delà de l'accès à l'énergie. Le succès de ces projets va aussi dans le sens de l'accès à d'autres ODD. Et pour que ces projets permettent des progrès en matière d'éducation, de santé, etc., eh bien, il est important, évidemment, que la politique qui est mise en œuvre au niveau local d'accès à l'électricité soit cohérente et conjointe avec la politique éducative locale, avec la politique de santé locale, etc. Ensuite, il nous semble que les collectivités locales sont mieux à même d'identifier les besoins de la population concernée. Maintenant, ce dont on s'aperçoit dans nos analyses, c'est que des projets qui ont été décidés à l'échelon national, donc plutôt dans une approche top-down, ont également un certain niveau de succès qui est comparable à celui de l'approche bottom-up. Et ça, nous l'interprétons comme le fait que dans une approche top-down, le principal avantage d'une approche top-down, c'est qu'on mobilise beaucoup plus de compétences, on mobilise évidemment, il y a des effets d'échelle, des effets d'accumulation de compétences, par exemple par l'agence d'électrification rurale, qui sont plus difficiles à obtenir quand on part dans une approche bottom-up. Alors, ce que nous avons observé, c'est qu'il y a nous avons plusieurs catégories, plusieurs niveaux de décision, donc du niveau national au niveau le plus bas, au niveau local, et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une sorte de courbe en U, qui est le résultat du fait qu'on a la combinaison de deux forces qui vont en sens contraire l'une de l'autre. Une force qui est plutôt en faveur de l'approche bottom-up pour des questions de gouvernance, et une force qui est plutôt en faveur de l'approche top-down pour des raisons d'efficacité technique, économique, etc. Cette courbe en U que nous avons observée est, sur le plan statistique, est très significative. C'est une conclusion qui nous paraît très robuste. L'autre conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que nous avons à la fois avec les papiers que nous avons recensés et aussi en interrogeant les auteurs de ces papiers, parce que nous sommes chaque fois que c'était possible revenus vers les auteurs des papiers pour vérifier que nous avions bien compris leurs papiers et aussi pour avoir des informations complémentaires, nous avons collecté une information qui est-ce que les stakeholders, donc les parties prenantes elles-mêmes ont un rôle dans le projet. Et ça, c'est une question très importante. On a des exemples, nos amis d'Électriciens sans frontières connaissent bien cette question, dans lesquelles le projet peut être décidé au niveau local, mais le projet est capté par le chef du village, sans tenir compte des besoins, des attentes de la population du village. Et ça, évidemment, l'approche bottom-up, là, a un problème dans ces cas-là. Parce que il ne suffit pas de se tourner vers le chef du village, le maire, etc., pour que le projet réussisse. Faut-il que ces autorités locales soient véritablement à l'écoute des stakeholders, des parties prenantes. Donc on a collecté une information qui est-ce que les parties prenantes, les stakeholders, ont un rôle effectif dans le projet. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que quand les stakeholders ont un rôle dans le projet, on a beaucoup plus d'effets favorables significatifs que dans le cas contraire. Donc ça nous paraît être une conclusion importante sur la gouvernance des projets. Et en discutant ces questions-là, on se rend compte assez vite qu'on est en train de redécouvrir des choses qui ont été découvertes il y a maintenant une vingtaine d'années par un prix Nobel d'économie qui s'appelait Linor Ostrom, qui n'a pas du tout étudié les systèmes d'électrification, mais qui a étudié des systèmes d'utilisation de biens publics locaux, notamment de type ressources naturelles, gestion des ressources en eau, par exemple, dans un village, et qui a développé toute une analyse montrant quelles devaient être les caractéristiques de gouvernance des projets amenant à une bonne des projets ou des systèmes de gestion de biens publics locaux amenant à un succès en matière de développement. Bien entendu, l'échelon local n'est pas nécessairement suffisant. Elinor Ostrom le disait elle-même. Elinor Ostrom parlait de gouvernance polycentrique. Et dans un système où on met en œuvre des technologies comme la production électrique, il y a évidemment des questions qui sont mieux réglées au niveau national qu'au niveau local. et en particulier tout ce qui concerne les normes techniques. Donc, en gros, l'idée est que il faut, même si la gouvernance au niveau local est importante, il faut mobiliser le principe de subsidiarité pour identifier quels sont les facteurs pour lesquels le bon niveau de décision est le niveau national. Alors il y en a plusieurs, hein. Il y a évidemment les normes techniques, mais il y a également les normes juridiques, hein, la protection des droits de propriété des installateurs de systèmes, etc. Il y a évidemment l'organisation du système de financement. Donc toutes ces questions-là sont étudiées notamment par ESMAP dans une base de données qui s'appelle RISE. RISE veut dire... Enfin, vous la connaissez tous, hein. Donc c'est une base de données qui qualifie la gouvernance des systèmes de production électrique, principalement avec une orientation énergie renouvelable, R étant renewable energy. Donc nous avons utilisé la partie mini-grid de cette base de données, parce que la base de données concerne aussi bien le grid que les mini-grids. Et nous avons, grâce à cette base de données, un indicateur qui nous dit, qui nous donne une idée de la qualité du cadre institutionnel national en faveur ou pas de ces mini-grids. Donc nous avons combiné ces informations avec notre base de données. Alors évidemment, là, ce sont des données au niveau national, donc avec, au final, très peu d'informations, hein, puisqu'on a, on n'a pas des centaines de pays, évidemment. Hein, on a quelques dizaines de pays qui sont mobilisés dans la base. Mais ce dont nous apercevons, c'est ce que montre ce graphique, c'est que effectivement, quand il y a un système institutionnel au niveau national tel que évalué par ESMAP de bonne qualité, on a de bien meilleures chances d'obtenir des effets positifs de ces projets. Donc ceci montre que la gouvernance locale est une bonne chose, mais que évidemment la gouvernance nationale doit être mobilisée aussi pour le succès de ces projets. Donc j'arrive à ma conclusion. J'arrive à ma conclusion. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est de tenir compte, de tirer des leçons de l'expérience des évaluateurs de tous ces projets d'électrification décentralisée qui ont été réalisés depuis une bonne vingtaine d'années, parfois 30 ans pour les premiers. Nous nous sommes aperçus que les évaluateurs avaient beaucoup de biais dans leur comportement, qui se sont intéressés essentiellement à une catégorie des projets, mais que malgré tout, on peut tirer des conclusions de ces évaluations. Et l'une des conclusions, et on tire des conclusions de deux natures. La première est que il faut s'intéresser principalement à ce à quoi on s'est pas intéressé jusqu'à présent, c'est-à-dire aux mini-réseaux plutôt qu'au système de type SHS. Ça nous semble être les systèmes les plus prometteurs pour obtenir des effets sur de réalisation des objectifs de développement durable. Et là, nos conclusions sont un peu fragiles, hein, forcément, puisque les évaluateurs ont relativement peu étudié les mini-réseaux. Mais malgré tout, les quelques conclusions que nous obtenons à ce sujet nous paraissent intéressantes. Et puis, nous avons des conclusions sur la nature de la gouvernance. Alors, les conclusions que nous avons sur la nature de gouvernance sont peut-être moins fragiles, mais aussi plus frustres. C'est-à-dire que ce que nous montrons avec les données disponibles à l'heure actuelle, c'est qu'en gros, il est important de regarder en détail la gouvernance de ces projets. Aussi bien, et sur les trois niveaux, sur le niveau des stakeholders, sur le niveau des collectivités locales et sur le niveau national. Ces trois niveaux sont importants. Évidemment, nous ne les avons pas regardés en détail parce que Et c'est une aussi, c'est un défaut de la littérature existante, parce que les évaluateurs de ces projets ont finalement assez peu souvent regardé la gouvernance de ces projets. Ils se sont beaucoup plus centrés sur des aspects technico-économiques. Et c'est pour cela qu'il nous semble important aujourd'hui, et c'est un peu la raison pour laquelle nous avons, avec l'affaire dit, à monter ce séminaire aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il est nécessaire pour, si on veut faire des avancées dans le domaine de l'électrification décentralisée, il est nécessaire de faire des avancées en matière d'évaluation de ces projets en évaluant beaucoup plus sérieusement et avec des données scientifiques les mini-réseaux, d'une part, et en creusant de manière beaucoup plus systématique et approfondie les questions de gouvernance qui ont été relativement négligées par les évaluateurs jusqu'à maintenant. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Oui, malheureusement, bonjour tout le monde. Malheureusement, je vais changer la langue maintenant à l'anglais. So good morning everybody again, now in English. So my name is Jörg Peters from Germany, and I've spent a considerable time or part of my life studying access to modern energy in the global south, mostly in Africa. To complement Jean-Claude's presentation, I will provide a what I call a non-systematic review of literature. So it's focused on our own work, but I will also complement it by other studies and also other systematic reviews like the one that Jean-Claude has just presented. So there are others coming, other systematic reviews coming up, and I will try to embed our own work in this broader literature. Okay, and so just to provide you with an overview of what I will present now in the next 25 minutes. So first of all, I will summarize literature on the impacts of on-grid electrification, so the extension of, real heavy infrastructure. So there is a discussion going on both in the academic debate but also among policymakers whether we should extend the grid or rather, expand the scope to decentralized electricity sources. In the literature, there is kind of a divide, you might say. So one part says that the impacts are considerable and we should do it. So yes, and the other part says, the impacts are modest and not high enough. So we shouldn't do it. And I will provide a few perspectives on this divide in the literature. And then I would also reflect a bit on what people call leapfrogging the grid. So do we actually need the grid in places that don't have it yet, in the global south, mostly in Africa? I will reflect on mini-grids and perspectives of mini-grids, but also about home scale, so really small-scale individual solar. And the substance of this talk, as I said, is it's our own work. We have done this in a couple of places. I have a slide on this also, the next slide, but also recent systematic reviews of the literature. So that's our showing off slide. So the places that we have worked on and the technologies that we have worked on, in quite a few places in Africa and also in Indonesia. But mostly, as I said, in Africa. So we have worked on the whole range of technologies. So from small scale, even solar lanterns, to full fledged solar home systems, mini grids, and then grid extensions in various countries. Focus countries though have been Senegal and Rwanda, and recently also Tanzania. And if anyone is up for talking about cook stoves, Carsten and I, we are also happy to do that. So here's my non-systematic reading of the literature. So for long, most studies, academic studies in the economics literature mostly, basically concluded or found that, that there are substantial impacts on economic and social development of electrification. And this has mostly happened outside of Africa, basically in Asia and also Latin America. So until a few years ago, there had hardly been any evidence coming from the African continent. And that's also one perspective on the divide in literature. So these studies have found pretty huge effects, right, of electrification. And only recently, a couple of studies, and I'm still talking about on-grid electrification, right? So not about decentralized solar or, you know, other decentralized electricity sources yet. So recently there have been three larger studies, one from us, to full disclosure, on-grid electrification in Africa, and they come to, let's say, more sobering results, more modest conclusions. So basically, electrification does not lead, and these are just examples, or these three cases. So one in Tanzania, one in Rwanda, that's our own, and then maybe the most influential one is by a team from Berkeley in Kenya. So these are quasi-experimental or experimental studies, and they have kind of shifted the prior in the literature. So people start to think about, you know, whether grid extension actually leads to these huge effects that we have observed elsewhere. And they all come to this conclusion that, that the grid does, you know, people connect, but then not much happens. I will come back to this later, right? So people do connect to the grid, but then economic development does not really kick in because it's only consumed or used for, you know, consumptive purposes, entertainment and lighting, right? But hardly any productive use. And just two alternative or two potential perspectives on this kind of, you know, debate in the literature. What are the reasons behind the underlying reasons for these different findings? One perspective is that there might be a regional divide, and this is pretty much in line with the map that Jean-Claude also showed earlier. So the vast or the big or the majority of studies is actually coming from non-African countries, and even within Africa, it's kind of clustered in just a few countries. So one takeaway from this map is that in any case we have to be careful in generalizing, you know, the evidence from that is already there, because many countries have not been, on the radar, if you want, of the academic debate. But I think my personal view also is that it seems that the evidence from non-African countries that I mentioned earlier is much more positive and does find much higher effects than the more recent evidence from African countries. And of course I'm happy to discuss about potential reasons for that. Another perspective on the divide is actually a methodological one. Again, Jean-Claude mentioned this briefly, so, you know, academics love to discuss, debate methods, and I won't, no worries. But one view also is that, that randomized control trials come to, like, less optimistic conclusions, and these authors in this case also suggest that it's due to the quality, right? So basically, the better or the higher impact studies before were basically biased because of the methods they were using, which were non-experimental. I won't go into this detail now. And to a certain extent, I agree. So many of the previous studies were using methods which basically, you know, you might say they're prone to what people call the publication bias or also p-hacking. So people basically, the business only publishes what finds significant and considerable interesting results. This is what, you know, the academic debate calls publication bias. And this might actually be going on in this case as well, but I won't bother you with the results. But again, if someone is up for a discussion about that, I'm always up for it. So coming back to electricity, in any case, it seems fair to conclude that the impacts of on-grid electrification in Africa are much smaller than previously thought. So let's also briefly talk about the costs, because, you know, the benefits might be modest, but this only becomes kind of, we can only judge them appropriately when we know what we are, like the money, you know, that we need to connect people. We know when we have take this into account as well. So how about the costs? Just a few rough numbers from these three studies that I mentioned earlier. So in Kenya, for example, the costs are higher than $1,000 per connection, so per household connection. In our case, in Rwanda, it's about $1,500 per connection, and I think these both are like lower bound estimates, and they can this can easily be higher. In our case, the number is coming from the government, and I think they have some interest to, you know, not to reveal the real number, or at least it's an average connection cost that is basically driven by cheaper connections in urban areas in Rwanda. And this is also underpinned by the number from Tanzania, which is, so the connection costs there are close to $7,000. The reason is, in this case, not so densely populated regions were connected, right? So rural, remote places with low population density. And this basically means you have to pull the line, you know, for whatever, 20, 25 kilometers to connect just a few houses. And this leads to connection costs that are, you know, of that order of magnitude. And I think this Tanzania number is not completely out of place. So this is probably what you would observe in many African, so rural areas of many African countries because of the low population density. So this raises the question, and I'm quoting now the Berkeley study, does Africa's energy future actually lie with the grid, right? Or should we basically contemplate other options? And to underpin this, this is the monthly electricity consumption from our sample in Rwanda, but again, you can replicate this with various other data sets from other countries and regions. So this is Rwanda, and what you see there is a electricity consumption of the majority of people that is below 5 kilowatt hours per month. So this is I mean, you know, for our comparison, this is virtually nothing. And hardly anybody consumes more than 20 kilowatt hours per month. And this also, you could do the same figure also for peak demand, so which hardly exceeds, you know, what numbers that could not be provided by solar, off-grid solar. And this is maybe also the message of this slide. So these consumption ranges of figures, you could easily provide this also with off-grid solar solutions. And again, this is coming from grid-covered areas, right? So the takeaway message here is even in grid-covered areas, people hardly consume electricity, and these and the amounts that people consume could easily be provided with off-grid solar technologies. So whatever the true costs are, of course, that's a debate in itself. And whatever the precise benefits are, it's fair to conclude that connecting every single African village at least to the grid does not seem to be reasonable. I personally think the grid should focus on certain thriving areas, whereas the large parts of rural Africa probably lend themselves to more like off-grid approaches. So I think we should rethink the on-grid off-grid balance, which is right now kind of too much towards the grid part, at least for, you know, large donors like World Bank, but also many African governments, I think. But again, I'm happy to discuss. So all these are just opinions and statements, evidence-based opinions, but I'm happy to discuss. So how about off-grid solar then? As I said, we have studied, you know, all technologies along the range, available range. So from solar lanterns to now we are moving basically away from the grid to the off-grid part. So from solar lanterns to mini grids. So mini grids are frequently, often mentioned as the, you know, the silver bullet alternative to the grid, especially for these remote places that I mentioned earlier. And indeed, the potentials are obviously huge because they, you know, they walk the line between the high costs of the grid and the low power potentials of small scale solar. So this is obviously the advantage of mini grids. But then, so far there are only a few examples. If some people say there is no example of a sustainably working mini grid program, of course there are these, you know, these notorious pilot villages that do work. And this is what Tenenbaum and others from the World Bank call the boutique electrification. So basically you establish one pilot village, or maybe two, right, to take the ambassador there and to get additional funding for the next phase. But this has hardly so far this has hardly developed into a large scale sustainable large scale program in which not just one or two or five villages but 25 or 250 villages are sustainably connected by mini grids. We have a paper on that where we discuss the reasons. And I think in a nutshell there are a couple of reasons, but I think in a nutshell the most important ones are again a low ability to pay, low consumption levels and high costs still also for mini grids. So for small scale off grid solar, there are studies, including randomized control trials, are mushrooming and they're being conducted everywhere. And I think the synthesis of this literature is that, impacts are not euphoric, but okay, at least given the small or the low investment costs. So these small scale solar, kits or panels, they come at like something between $15 or $250, which is considerably cheaper than the grid connection numbers that I raised earlier. And people do value it, right? So I think for long there has been the opinion that people, just want the grid. And I think it's still somewhat true, but still people in remote places far off the grid also value smaller scale electricity sources. So off-grid solar. And this is just to underpin this with some numbers. We conducted, for example, a revealed willingness to pay study in this is now coming from Rwanda. And in this case, we relate what people effectively paid for the solar kits, to their monthly expenditures. And what you see here is for a tiny solar lantern, even there people are ready to pay, and they do pay 20% of their monthly expenditures. And this can easily go up to three or four times what they spend in total per month. They spent this for a solar home system, which is able to feed a small television set or radio and a few light bulbs. So just to, underpin that people do value, in case the grid is not there and not available, people do value, these smaller scale, solutions. But, and this is a complicated slide now, but they can't afford. Right? Especially, some strata can afford, like the better off ones can afford, but the poorer ones cannot. And this slide, as I said, is a bit complicated, but it basically shows, the savings potentials, compared to your baseline expenditures. So, even a household without electricity does consume energy. So kerosene, dry cell batteries, you name it, and you spend money on it, right? But the poorer you are, the less you spend even, at the baseline for energy. So very poor people in rural Africa hardly consume any artificial energy, which is why they can't replace anything, right? And if you can't replace, you can't save, which means if you invest into off-grid solar, you have additional costs, right? And this slide basically shows these additional costs according to the different parts of the distribution. So the richer households, that's the one on your right, the richer households do have savings potentials when they invest into solar because they have expenditures already at baseline, and poorer ones don't. And this just emphasizes or shows why people, the poorer stratum in rural Africa cannot afford and will not afford the investment into off-grid solar. This is just another side note. Off-grid solar is already there, right? And people in rural Africa are already on a transition to modern energy. But this is not necessarily what we would consider high quality solar. So there is especially what people call low quality solar or la chinoiserie in Francophone Africa. And dry cell batteries, right? So it's not that people in 2019 still, some do, and sometimes everybody does maybe, but the majority, at least everywhere we have gone in our surveys, and also other people have found that, people are no longer using kerosene, for their lighting purposes in the absence of the grid or electricity, but LED torches. And they are driven by dry cell batteries, the PIL. you know, it can be fixed torches like that, or mobile torches like the first one, or even the very poor, they even use just one LED diode and connect it to two or three dry cell batteries and, you know, pack it in a banana leaf. So so that's basically what the poor people use, and the not so poor ones, let's say, and they would switch to.
Yeah. Please. No, no, sorry. You can't concrete?
Yeah. Is that turned on now? Huh? But I think it's turned on. No, okay, it wasn't. So the not so poor ones, they switch to what people call low quality solar, but I actually would challenge this notion. So low quality is a Western concept, I would say. So this stuff does actually fulfill the purpose, right? So people use it to light their homes, but sometimes also to radio. In any case, sometimes also to watch television. And this is happening like on a large scale in rural Africa. So these are, for example, numbers. Pretty even outdated now. This is in 2012. This ended in 2012. Burkina Faso, the uptake of these low quality, in quotation marks, low quality solar has really, like, you know, la croissance exponentielle. Is it right? So has really grown exponentially. And we corroborated, or we kind of replicate this number in various countries. Just recently in Tanzania, between 2014 and 2018, the solar home system uptake, and without any donor intervention, right? So this is not due to a donor or governmental intervention. In Tanzania, it increased from, I think, 15% at baseline in 2014 to 65% in 2018. So people invested into home scale solar, without any, you know, whatever European or Western driven program, and also without a governmental intervention. Okay, so a few concluding remarks. As I said, we have to rethink the on-grid off-grid balance, and focus more on off-grid, at least for remote places in rural Africa. This is easier said than done. Of course, the grid is still needed in some places, and we have to think about how to identify those places. This is clearly one of the important challenges. Another one is to develop viable business models for mini grids, but because, of course, I agree that this is there might not be the silver bullet, but of course they should be part of the solution. And then also we should think about the role actually of so-called high-quality solar, because as I said, low-quality solar is la chinoiserie, is basically everywhere and penetrating the rural African market. And this also raises the question on how to establish effective waste management systems, because obviously, you know, this stuff is not being disposed of appropriately. And maybe the last slide is, in any case, if we really want to succeed in providing modern energy to everybody by 2030 or whatever, we should contemplate subsidies. I think without subsidies, we will never reach the very poor, and no mini-grid program will ever be sustainable without a sustainable subsidy scheme. And this is, of course, also something to think about, how to develop a sustainable subsidy scheme. Thank you very much.
Très complémentaire. Je pense que nous devons peut-être garder 10 minutes pour les questions parce que nous avons deux approches tellement, non seulement complémentaires, mais qui ne sont pas totalement convergentes. Et je pense que ce sera intéressant d'avoir quelques réactions de la salle sur, je dirais, les deux approches méthodologiques qui ont été présentées. Donc nous avons 10 minutes pour, si les organisateurs y consentent, avant la pause café, hein. Alors, quelles sont les questions, rapidement, dans la salle? Monsieur Oh.
Bonjour, merci beaucoup pour ces deux présentations très intéressantes. Je me demandais, vous n'avez pas du tout parlé tous les deux de la viabilité économique des fournisseurs de ces solutions, que ce soit les solar home systems ou les mini-réseaux, vous en parlez à la fin de votre deuxième présentation. Est-ce que c'est parce que ça n'a pas du tout été étudié jusqu'à présent dans la littérature, ou bien vous avez décidé de ne pas regarder cet aspect-là. Et ça me paraît d'autant plus important que, en fait, pour regarder l'impact et l'effet de l'accès à l'énergie, il y a bien entendu un effet long terme. Et pardonnez-moi, je serais en désaccord avec vous sur le fait que la low quality est un concept occidental. Non, parce que s'il y a un remplacement des équipements qui doit se faire plus fréquemment que la moyenne, dans ce cas-là, en réalité, ça, il n'y a pas de viabilité économique pour les populations. Et par ailleurs, pour adresser un besoin productif, ce que les mini-réseaux peuvent fournir, avoir une offre, un système de génération énergétique de qualité qui va durer sur le long terme permet d'assurer la viabilité et la soutenabilité de la création d'emplois dans les villages. Merci beaucoup.
Voulez-vous vous présenter peut-être?
Ah oui, pardon, je m'appelle Margot Le Guen et je travaille pour Total Eren et également pour Winch Energy, qui est une société qui développe des solutions de mini-réseaux en Afrique notamment.
Merci beaucoup. Deux autres questions avant de passer la parole aux orateurs.
Monsieur. Oui, bonjour, Michel Labrousse, Actions sans frontières. Une question à Jean-Claude Barthélémy. Dans les différentes dimensions, je voudrais savoir si vous avez pris en compte la dimension de maturité des projets, c'est-à-dire le nombre d'années, en quelque sorte, au bout duquel on fait l'évaluation et la façon dont les projets évoluent. Je n'ai pas bien vu. Et la deuxième dimension qui me semble importante, c'est au niveau de la réalisation, mais aussi de la gouvernance, c'est qui prend en compte, quel type d'acteur et quel statut d'acteur prennent en compte ces projets. En particulier, en gros, la part de privé dans l'initiative, dans la construction et dans l'exploitation de ce type de projet. Est-ce que les entreprises privées, qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus actives, quel est leur impact sur les réalités et les résultats des projets? Merci.
Merci. Troisième question. Qui était ici? Ah. Il y en a.
3 et 4.
Merci. Bonjour, Céline Cholès du laboratoire PACT. C'était une question peut-être à tous les deux. Je voulais savoir, vous présentez les différents modèles. Le réseau, le hors-réseau, le Solar Home System ou le mini-grid comme différentes alternatives. Et je me demandais, est-ce qu'on a des raisonnements qui pensent plutôt une combinaison de ces différentes solutions plutôt que de les opposer, notamment les nano-solutions et puis le mini-réseau, puisqu'elles n'adressent pas forcément les mêmes besoins. Les communautés locales, les villageois ne sont pas identiques, ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes pratiques énergétiques. Et du coup, différentes solutions peuvent correspondre à différents usages et à différents modes de financement aussi et modes d'accès à l'électricité. Merci.
Merci. Dernière question alors.
Thank you very much for your presentation. I just have a very quick clarification question really for Jean-Claude. On your data set, you showed a table with the poverty reduction impacts for high versus low was higher for high energy systems rather than for nano systems, so the poverty reduction. But on that same table, you had social well-being improvements of the systems, and for this, it was 67% for the nano and 45% for the large systems. And I was wondering if you could just wrap that in the narrative and if there was any reason behind that, if you know which table I'm talking about.
Merci. Désolé de ne pas prendre d'autres questions, mais peut-être, ou juste une question, et puis rapidement, s'il vous plaît.
Bonjour, je suis Salo Hamidine. Je suis le directeur général de l'Agence nigérienne de promotion de l'éducation en milieu rural. Je félicite les présentateurs pour cette brillante présentation. La question que je me posais, c'est de savoir les hypothèses de base qui ont conduit à ces analyses. Est-ce que vous avez pris en compte les études de marché préalables dans les différents pays où vous avez localisé vos projets? Ces études, est-ce que vous avez pris en compte les capacités, les pouvoirs d'achat des populations concernées qui sont cibles de ces projets? Et la dernière question s'adresse à M. Peter, qui a conclu que il faudrait nécessairement subventionner l'accès à l'électricité pour pouvoir atteindre un accès universel. Quels sont les éléments d'analyse qui ont conduit à cette conclusion? Merci.
Merci. Toutes ces questions fort intéressantes retrouveront un peu leurs réponses au cours des deux journées. Mais je donne tout de suite la parole aux deux orateurs s'ils veulent répondre rapidement. Et je suis passé au dessus. Très frustré jusqu'à la fin de leur réponse, mais je vous demande d'être court parce que sinon on empiète sur le temps des sessions suivantes. Merci.
Ok, je vais commencer. Je suis trop timide pour répondre en français, donc. So maybe first to respond to the productive use question. Of course, we have always looked at it. I mean, it has always been the focus basically of our evaluations, but also the evaluations of other research teams. And it's true that I only mentioned it very briefly at the beginning of the presentation. So basically, the finding is that it's not happening, at least not as such and everywhere, or at large scale, let's say. So the reason I think, very briefly, the reason I think is that, you know, access to markets is not there. Electricity does not solve the access to market problem or bottleneck, right? So you connect the village and you know, people, or let's say the carpenter, produces something, and he does that for the local market only. So for his or her, neighbors, or maybe the neighboring village, but not, they don't export to the capital, let alone to international markets, right? And this limits the potentials to grow in these places. And electricity does not solve this. I think that would be my two sentences, reply. And I fully agree that we need an integrated approach. It's not they are not mutually exclusive. At least from a national perspective, maybe if you connect a region, so you cannot expect people who can't afford, for example, to connect to the grid, who are living next door to someone who does connect, you cannot expect them to just use a solar panel. I think that's possible, but I think this would lead to social tensions, I guess. But from a national perspective, I 100% agree that we need an integrated approach, and we need to develop tools that help to decide where the grid should go and where lower cost solutions are sufficient, right, for the time being. I don't know if that answers your question. And my responses to your two questions are actually so my claim for subsidies is based on the response to your first question. So the ability to pay in most of rural Africa is extremely low, at least for the poorer strata. Of course, you will always find 10% of the population who can afford. Maybe you find 30% who can afford, but you will never find 100% who can afford. And if our goal is to provide electricity to everybody, we should help the poorest. I think that's a question of equity. Of course, it's a normative statement. My American colleagues hardly agree with that. But I think that's what the SDGs ask us to. That's what SE for All ask us to. And I personally think that's a question of energy equity, you might say. So the poorer strata cannot afford. That's, and this is also, we have found this in basically all of our studies in all of those countries. I think that's the substance of my very strong and passionate claim for subsidies. Yeah.
Non, ça marche pas. Ça marche. Oui. Bon, rapidement, la viabilité des projets dans notre analyse, elle dépend d'une certaine manière de leur impact. Et en particulier, c'est vrai qu'il faut se poser la question de la capacité des populations à payer ces services d'électricité, mais il faut aussi se poser la question de la capacité de l'arrivée d'électricité à accroître les revenus des personnes concernées pour qu'ils puissent être effectivement à même de payer les coûts de maintenance, etc. Et c'est pour ça que notre approche consiste à dire La chose la plus importante qu'il faudrait regarder, c'est les effets de transformation économique. Pas les effets... Apporter de l'éclairage, c'est bien. C'est du confort, c'est éventuellement des quelques économies parce que l'éclairage électrique coûtera moins cher que les bougies. Mais c'est pas ça qui va permettre de développer une capacité de paiement de la part des usagers. Ce qui va développer une capacité de paiement de la part des usagers, c'est si l'arrivée de l'électricité apporte de nouvelles activités économiques, apporte une amélioration de la productivité agricole, ce genre de choses. Et c'est pour ça que nous plaidons pour une approche dans laquelle on ne se contente pas de solutions type Solar Home System où on va apporter de l'éclairage et des recharges de batteries, mais des quelque chose qui véritablement transforme en profondeur la structure économique locale. Donc, bon, ça répond pas à toutes les questions, mais je pense que cette approche est très importante et nous pensons que pour cela, il est essentiel d'avoir suffisamment de puissance. Et pour avoir suffisamment de puissance, il est essentiel d'avoir une approche, une action collective. Et c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur la gouvernance locale. Alors, on peut évidemment mixer les différentes solutions. Je voudrais signaler, et je fais référence au travail que SF fait avec les cafés Lumière, même au niveau local, on peut mixer les solutions au sens où, alors, les cafés Lumière à Madagascar, de SF, trouvent que nous travaillons avec ESF sur l'évaluation de ce projet, combinent d'une certaine manière un mini-réseau avec quelque chose de plus nano, qui est location de lampes solaires, etc. Donc vous avez un générateur électrique qui à la fois permet de recharger des lampes solaires, par exemple, mais aussi créer un micro-réseau local qui permet d'alimenter l'école, le dispensaire ou certains usagers. Donc je pense qu'effectivement, même au niveau local, on peut combiner les solutions et l'approche d'électricien sans frontière me semble intéressante, surtout dans des pays pauvres comme Madagascar. Juste sur la question pour finir sur ESF, la question du délai d'évaluation, on a essayé de contrôler nos calculs en fonction d'une variable qui est le délai entre la mise en œuvre du projet et son évaluation. En fait, on n'a pas de résultats significatifs sur ça. C'est pour ça que nous on a, bon, les résultats non significatifs, en général, les économètres ont tendance à les glisser sous le tapis. C'est ce que le biais de publication, c'est le biais de publication auquel Jorg faisait référence tout à l'heure. J'interprète ça pour le fait que, effectivement, plus le délai est long, plus on peut espérer avoir des résultats si le projet est viable. Mais, il y a un grand mais, plus le délai d'évaluation est grand, plus la puissance de l'oubli est importante, et donc la précision de l'évaluation de l'impact peut être réduite. Voilà. Donc je n'ai pas à répondre à toutes les questions, mais je pense qu'il faut qu'on passe à la pause et à la session suivante. On aura l'occasion de revenir à toutes ces questions dans la suite de ces deux journées.
Merci Jean-Claude. Je pense qu'on va peut-être arrêter là pour cette première session.